Merci tout d'abord pour organiser ce débat autour de ce livre. Je connais très bien le professeur Roulant. J'ai été moi aussi son étudiant et il était question d'ailleurs à un moment qu'il dirige les recherches que je voulais faire en anthropologie. Et il m'avait donné un sujet, c'était à l'époque... Donc sa grande passion, l'anthropologie, sur les contributions des auteurs francophones, des ethno-juristes francophones au concept, à l'étude, à la compréhension des sociétés, on peut dire exotiques, voilà, ça va sortir. Et ce projet de recherche, finalement, je ne l'avais pas mené à son terme, bien malheureusement, même si, effectivement, quand j'étais étudiant, je faisais à la fois du droit et de l'ethnologie. Sur le professeur Roulant, moi, j'aimerais tout d'abord dire, même si la salle n'est pas très nombreuse, que vous avez en face de vous un professeur de droit tout à fait original, exceptionnel. Ce n'est absolument pas comme ça que les professeurs de droit se présentent, conduisent leurs recherches, orientent leur centre d'intérêt. Et vraiment, le cas n'est pas unique en France, mais il se compte sur les doigts d'une main. Il se compte sur les doigts d'une main, c'est-à-dire cette volonté d'allier... Eh bien, le savoir juridique, la compétence juridique qui est quand même très spéciale, parce qu'elle procède d'une réécriture du réel. Je crois que le droit a, en grande partie, pas que, mais une fonction démiurge, c'est-à-dire réécrire le réel et lui donner, sous la forme d'une fiction, la fiction des qualifications, le sens des relations que l'on doit entretenir avec autrui, avec la propriété, avec sa communauté, etc. C'est une réécriture du réel pour essayer de l'ordonner. L'idée du juriste étant que une société sans droit, c'est sans doute une société de désordre, et que le droit amène une forme d'ordre, une forme de... Pas toujours, d'ailleurs, parce que c'est précisément le thème de l'ouvrage. Et parfois, de désordre. Le droit peut être, lui aussi, facteur de désordre. Mais c'est quand même pas comme ça que le droit a été pensé dans ses origines grecques. On parlait de Méditerranée, dans ses origines grecques, peut-être dans ses origines romaines, même si ça serait éventuellement, sans doute, l'objet de discussions assez arrêtées, assez vives, puisque, quand même, le droit romain était très discriminatoire. Voilà. Quand je pense aux origines grecques, je pense surtout aux origines aristotéliciennes du droit. Vous avez en face de vous un professeur très original et surtout avec des dons et des centres d'intérêt extrêmement variés. Ça, c'est sûr que c'est tout à fait étonnant de voir un collègue qui s'intéresse, qui commence... sa carrière de chercheur sur le droit romain, qui après se dit « tiens, je vais faire un peu d'ethnologie au Québec », puis qui après passe de l'ethnologie à l'anthropologie, et avec vraiment une reconnaissance plus que nationale, européenne. Si, puisque les ouvrages de Norbert sont traduits dans de multiples langues, dont des langues qu'il ne maîtrise pas,
beaucoup, oui.
Comme le russe. Comme le russe, ce qui, chez lui, provoque un certain dépit de ne pas pouvoir lire le russe. Mais après, plus encore, de s'intéresser à la musique, de s'intéresser au lien entre société et musique, entre homme, femme et musique. Alors, vraiment, ce panorama des centres d'intérêt... Et quand même tout à fait inhabituel. Lorsque un professeur de droit investit une question, il reste quand même dans une thématique, comme par exemple la thématique des institutions politiques. Voilà comment fonctionne une constitution. Ici, ailleurs, aujourd'hui, demain. Mais il reste dans ce champ de l'institution politique ou le contrat, la question de la responsabilité. Alors, ça, c'est une facette et ça me provoquerait donc une question. Enfin, ça provoque une question de savoir, malgré tout, est-on dans la rupture axiologique, dans la rupture des centres d'intérêt, parce que, comme Norbert Roulant aime le dire, finalement, au bout d'un certain moment, j'ai épuisé le thème. Non, bien sûr que non, le thème n'est pas épuisé, loin de là. Mais j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire autre chose. Et donc, un questionnement, ce serait... mais j'y viendrai après la remarque que je voudrais faire également. Ce serait, y a-t-il rupture ou continuité? Et moi, je vois quand même beaucoup de continuité, et je dirai pourquoi. Mais avant d'aborder cette rupture ou cette continuité dans les champs d'intérêt, dans l'axiologie, dans les différents écrits, et très nombreux, vous n'avez pas sous les yeux, mais le professeur Roulant a également écrit des romans. Oui. Qui sont présentés comme tels, notamment sur la vie à Rome. La vie à Rome. Oui, originalité, mais finalement, je pense, et ce n'est pas une critique, parce que d'où tu parles, le perspectivisme, il est quand même là. Le perspectivisme, c'est celui, malgré tout, de la formation initiale, du droit. Et qu'est-ce qu'il y a dans le droit tel qu'il est enseigné, tel qu'il est... enseigner, pratiquer, écrit, etc., il y a quand même l'esprit de pondération. Et malgré tout, même s'il y a cette grande originalité, je vois aussi dans les propos sous-jacents, dans ce qui structure les idées, beaucoup de pondération. Ce qui peut aussi définir la discipline juridique, c'est une discipline de la pondération. Elle essaye de trouver un juste équilibre, un juste milieu entre des prétentions contraires. C'est ça l'objet du droit, l'objet du juge, aller en justice pour et trouver la meilleure répartition. Évidemment, il y a le droit, mais trouver la meilleure répartition, celle qui permettra à chacun de s'y retrouver. Ce n'est pas de l'équité non plus, mais de s'y retrouver dans un conflit. Cette pondération, je la vois avec le leitmotiv qu'il y a, qui traverse tout l'ouvrage, sur cette idée de, non pas comme c'est écrit, excusez-moi Norbert, genre versus sexe, mais c'est plutôt genre et sexe, ou genre complété par le sexe. Qu'est-ce qui nous définit, nous les hommes, vous les femmes, etc., et l'enfant, et bon, toutes les catégories sociales, c'est les deux. Ce n'est pas une opposition. Il y a bien écrit genre versus sexe, mais c'est beaucoup plus, et d'ailleurs je lis le débat sur les féministes que vous avez présenté, je le lis de cette façon-là, beaucoup plus comme une complémentarité. Et c'est bien ce qui se dégage à la fin. Vous utilisez les termes de réconciliation, de complémentarité entre l'homme et la femme, de troisième voie, de troisième modèle, le modèle de l'homme, le modèle de la femme, un modèle de domination et de dominé. Et vous suggérez, c'est d'ailleurs la remarque qu'a faite Anatoly Kovler, qui préface cet ouvrage, Anatoly Kovler, qui est un grand juriste, avec une reconnaissance d'origine russe, avec des reconnaissances internationales tout à fait remarquables, puisqu'il a été juge à la Cour européenne des droits de l'homme, et qui en attendrait un peu plus de cette troisième voie, de ce troisième modèle. Donc ma première remarque, elle porte sur à la fois la grande originalité des productions que vous avez faites, tout au long de votre carrière, et en même temps d'un leitmotiv de pondération qui est derrière, que je retrouve, moi, dans la conclusion de l'ouvrage. Une question, donc, peut-être pour commencer, sur rupture ou continuité. Je crois qu'il y a dans toutes vos productions une continuité humaniste. Je le vois comme ça, je dis toujours qu'on ne peut pas être un salaud et faire de l'anthropologie. Ce n'est pas possible. C'est incompatible. Si on fait de l'anthropologie, quoi qu'on puisse en dire, quoi qu'on puisse représenter aux yeux d'autrui, etc., c'est quand même qu'on a un amour d'autrui, un amour de la différence, ou une volonté à minima de comprendre la différence. Et je crois que cet humanisme, peut-être cette pondération également, traverse toute votre œuvre. Et je la vois dans la conclusion de l'ouvrage sur cette troisième voie. Je me demande aussi si dans la trajectoire que vous avez, trajectoire donc des champs d'intérêt, il n'y a pas une sorte de Claude Lévi-Straussisation, puisqu'il a commencé par les Indiens du Brésil, les Guarani, et chemin faisant, il est passé donc de l'ethnologie à l'anthropologie, et il en est arrivé donc à décrire les formes d'art et à réfléchir sur le structuralisme et l'art. Et je me demandais, dans ce dernier ouvrage, s'il y avait un lien entre donc un peu ce qui a conduit Claude Lévi-Strauss à s'intéresser à l'art et vous, votre propre cheminement. Est-ce que ça vous a inspiré? Je me demandais aussi si vous avez été inspiré par Michel Perrault sur le silence dans l'histoire, de l'histoire des femmes. Voilà un peu pour commencer le questionnement. Je continue ou...
Ah, mais il y a déjà beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. En ce qui concerne la... C'est vrai que je réfléchissais pendant que vous parliez. C'est vrai que, à ma connaissance, il ne me semble pas y avoir de salaud en anthropologie. Il y a eu des erreurs, évidemment, mais non. Alors que, bon... En droit, il y a quand même eu des salauds. Je pense à Carl Schmitt, par exemple. Il y a eu des juristes nazis, quand même, et qui étaient de grands juristes. Hein. Ce n'étaient pas du tout des imbéciles, loin de là.
Non.
Carl Schmitt, sur certains points, sa doctrine pose des problèmes tout à fait actuels. Hein, quand il parle des terroristes de l'intérieur ou des terroristes en général, mais enfin... Bon, par ailleurs, c'est vrai que ce qu'il dit, son adhésion au parti nazi, c'est quand même pas acceptable. En anthropologie, je vois pas. Au contraire, même, je pense à un ouvrage qui, curieusement, il a été édité en anglais, mais enfin, l'anglais, c'est quand même une langue accessible, que je vois très peu souvent cité, d'un des grands noms de l'anthropologie, qui s'appelle Franz Boas, qui est donc un chercheur d'origine européenne, mais qui a émigré aux États-Unis, enfin, en Amérique du Nord, qui a été un des pionniers avant Malinowski de l'enquête sur le terrain, qui a fait des enquêtes sur le terrain chez les Inuits. Et il a écrit un petit livre, ça s'appelle Anthropology of Modern Life, où il énonce des choses qui étaient tout à fait en avance sur son temps. Il dit par exemple que c'est pas nécessaire pour une femme d'arriver vierge au mariage, il s'oppose au racisme. Enfin, des choses qui, pour l'époque, étaient quand même tout à fait nouvelles. Un bon signe, c'est que ces livres ont été brûlés par les nazis. Là, c'est une référence, quand même. Donc ceci pour dire que... Bon, on a accusé, c'est vrai, les ethnologues d'avoir collaboré avec l'administration coloniale. Bon, je veux bien, mais enfin, de là à dire que c'était tous des salauds, non, je pense pas. Donc c'est vrai que votre remarque est tout à fait exacte. Quant à la pondération, bon, peut-être que c'est une question de caractère, hein, tout
aussi,
simplement.
Peut-être.
Mais c'est vrai qu'il y a une phrase de François Mitterrand, qui est un personnage dont on peut penser ce qu'on veut sur le plan politique, hein, on l'appelait le Florentin, mais enfin, sur le plan humain, qui m'a toujours beaucoup intéressé. Et à un moment donné, il a dit quelque chose du genre « Les gens dans la vie pensent que tout est blanc ou noir ». C'est pas vrai. La plupart du temps, c'est gris. Et c'est vrai. Hein. Et je pense que j'ai peut-être un petit peu un caractère. Enfin, ça vient avec l'âge, hein, aussi. Quand on est jeune, on est plus catégorique. Enfin, ça vient aussi, quand même, de la formation universitaire. Hein. À l'université, ce qu'on vous apprend, c'est toujours avoir un côté oui, un côté non, thèse, antithèse, synthèse, etc. Enfin, on vous apprend à décortiquer les problèmes. Hein. On ne dit pas telle théorie est juste, telle autre théorie est complètement fausse. En plus, comme vous le signaliez très justement, bon, on peut faire de la théorie du droit, j'en ai fait, mais enfin, le droit, c'est quand même l'étude de la manière dont des grands principes peuvent être appliqués dans le concret. Et dans le concret, eh ben, ça explique notamment le juge, pour ça, l'étude de la jurisprudence est quelque chose d'intéressant, comment on fait passer dans le concret des grands principes. Bon, la liberté d'expression n'est pas totale. Hein, même dans un pays comme la France, quand même, un pays qui est assez démocratique, on ne peut pas dire ce que l'on veut, absolument ce que l'on veut. Vous ne pouvez pas dire « les chambres à gaz n'ont jamais existé ». Ça, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas proférer des injures racistes. Je ne sais pas, au point de vue... alors dans le droit civil, au point de vue du comportement dans un couple. Bon, à l'heure actuelle, il y a la moitié des couples qui divorcent et un tiers des divorces sont des divorces pour faute. Bon, alors, bon, il ne faut pas mal se comporter dans son couple. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est, la faute dans un couple? Et le juge va être obligé de dire, ben voilà, voilà ce qui est fautif, voilà ce qui ne l'est pas. Par exemple, bon, ça fait sourire les étudiants, évidemment, mais le fait pour un mari ou pour une épouse, peu importe, de rentrer chez soi le tard et de ne pas adresser la parole à son conjoint, c'est une faute. Le fait d'interdire à son conjoint de voir ses amis, c'est une faute. Mmh. Le fait, il y a même un adultère, à l'heure actuelle, tout est dématérialisé, mais l'adultère aussi est dématérialisé. Puisque l'adultère, c'est pas uniquement avoir des relations physiques avec quelqu'un d'autre. Par exemple, il a été jugé que le fait d'entretenir une correspondance relativement intime, pas pornographique, mais intime, avec quelqu'un de manière suivie, ça peut être un adultère. Bon, oui, tous ces petits exemples montrent qu'effectivement, ben, le juriste, le juge, et puis l'universitaire, quand il étudie la jurisprudence, il est obligé de faire la part des choses, de voir où passent les limites, d'arriver à caractériser les choses. Donc c'est peut-être cet esprit de pondération, ça vient effectivement non seulement de caractère personnel, mais de la formation universitaire et peut-être aussi spécialement de la formation de juriste. Hein. Oui, vous avez fait allusion... à l'attirance pour quelque sorte des zones silencieuses. Alors là, il ne s'agit pas de l'exploration physique, je ne suis pas Indiana Jones, mais c'est vrai que intervenir ou faire des recherches dans des domaines qui ont déjà été labourés maintes et maintes fois par d'autres, c'est pas très excitant. Mmh. C'est pas très excitant parce que c'est difficile de trouver quelque chose de vraiment nouveau à dire. Donc, c'est vrai que j'ai toujours préféré, quitte à passer quelquefois comme un uluberlu par mes collègues juristes, j'ai toujours préféré aller dans des zones relativement peu explorées, en tout cas par les juristes, comme l'ethnologie juridique, par exemple, ou l'anthropologie juridique. Bon, quand j'ai commencé à faire des études, quand j'étais jeune, les Inuits, je me suis bien gardé de dire ça à la faculté de droit d'Aix, parce que ça m'aurait grillé complètement. Donc, bon, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin, j'ai fréquenté Jean Mallory à l'école des hautes études, enfin bon, etc., etc. Mais enfin, j'avais soigneusement cloisonné tout ça. Et peut-être que pour les femmes, c'est un petit peu pareil, parce qu'effectivement, les femmes artistes, bien sûr, mais d'une manière générale, les femmes ont un peu été les oubliées de l'histoire. Hein. Et quand on cherche, on finit quand même par trouver. Hein. Les femmes artistes, il n'y a pas tellement longtemps, il y a finalement une petite cinquantaine d'années, on en connaissait très peu. Et puis, les historiennes de l'art et les historiennes de la musique nord-américaines se sont intéressées au sujet. Et les femmes ont commencé à sortir. Et donc, ça, c'était quand même intéressant de voir se constituer un nouvel objet de recherche. Et ça me rappelle un des enseignements que mon maître, qui est évidemment disparu, Lionel Ménager, qui était mon professeur d'histoire du droit, me disait toujours, l'histoire, c'est pas la science du passé. L'histoire, en fait, nous faisons l'histoire à partir de nos interrogations du présent. Mmh. Et ça, il avait, je pense, parfaitement raison. C'est pour ça qu'après avoir commencé à enseigner l'histoire du droit de manière linéaire, chronologique, dans les premières années d'enseignement, après, dans la seconde partie de ma vie académique, j'ai fait le contraire. En première année, je prenais des sujets actuels, qui accrochaient évidemment le plus les étudiants de première année, par exemple le mariage pour tous. Et puis, je remontais dans le courant de l'histoire pour voir comment ça avait été abordé par des civilisations ou par des époques différentes de la nôtre. Et donc, je crois que pour faire de l'histoire, il faut partir du présent et non pas du passé, contrairement en général à ce qu'on peut croire. Et de cette manière, parler des femmes artistes, même si c'est des femmes artistes du passé, puisque je suis quand même essentiellement un historien, c'est aussi parler d'un problème présent. Parce qu'on ne s'intéresserait pas à l'histoire des femmes si les femmes n'étaient pas, si notre société n'avait pas été marquée par des progrès malgré tout considérables, notamment sur le plan juridique de la condition féminine. Ou pour vous prendre un autre objet, moi quand j'étais étudiant en droit, je n'ai pas fait une ligne de droit européen. Parce que tout simplement, l'Europe en était à ses balbutiements à l'époque. Maintenant, c'est impossible de faire des études de droit sans faire plusieurs semestres de droit européen, comme le sait bien Laurent. Donc, voilà, enfin, c'est une manière un peu fourre-tout de répondre à vos questions, mais je ne sais pas si c'est suffisant, mais enfin, si vous avez d'autres idées...
Oui, j'ai d'autres idées, si madame la... animatrice.
Voilà. Ah oui, pardon. Il y a quand même un point sur lequel je voudrais peut-être commencer à répondre. Vous me dites, et c'est vrai que ça figure sur la quatrième de couverture, que finalement, dans cette histoire des femmes, j'espère qu'on va arriver à une harmonisation des différences. Hein.
Des compléments.
Voilà, une complémentarité. Bon. Alors, encore une fois, comme je vous le disais au début, je pense que l'existence des genres, elle est indubitable. Mais une fois qu'on a constaté ça, qu'on a essayé de le prouver par différentes recherches historiques, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là, je crois, où actuellement, au moins dans le grand public, ça a un aspect un peu polémique, cette question du genre. Il y a pas mal de gens qui sont opposés, qui disent non, la théorie du genre, c'est nul, etc., parce que ça veut dire qu'on vise à abolir toute différence entre les hommes et les femmes. Bon, si jamais c'était ça, ça serait pas mon idée. Hein. Je pense effectivement que, comme je le disais tout à l'heure, un anthropologue, il est attiré par les différences. Donc, une société où il n'y aurait plus aucune différence entre les hommes et les femmes, ça me paraîtrait une régression. Mais ce qui est vrai aussi dans l'approche de Simone de Beauvoir, quelque part, dans le deuxième sexe, elle dit « Tous les apôtres de la différence oublient de mentionner qu'en ce qui concerne les femmes, l'aspect différentiel a toujours été au détriment des femmes. » Ça, c'est vrai qu'elle a raison. Mm-hmm. Elle a raison. Mm-hmm. La plupart du temps... Comme dans le passé, quand on a établi des différences entre les hommes et les femmes, c'était pour essayer de prouver que les femmes étaient plus faibles que les hommes, que donc elles avaient besoin d'un protecteur, ce qui a été le statut juridique de la femme mariée jusqu'à peu de temps. Hein, on considérait que la femme était une mineure, donc il fallait la protéger et la remplacer dans un certain nombre de domaines. Au point d'ailleurs que les veuves, auxquelles je consacre un chapitre dans mon livre, les veuves étaient considérées comme une catégorie étrange. Pourquoi ? Parce qu'une veuve, le veuvage était pratiquement le seul moyen pour une femme de devenir majeure sur le plan juridique. elle reprenait tous ses droits. Et il y a beaucoup de femmes qui se sont grandement réjouies de leur veuvage. Madame de Sévigné disait ça, elle a été veuve à 25 ans. À l'époque, on pouvait être veuve tôt. Et elle écrit à un de ses correspondants quelque chose du genre « que j'ai été heureuse d'être veuve, ça m'a permis d'entretenir un certain nombre de relations intéressantes, d'avoir une vie agréable, etc. etc. » Bon, Madame de Sévigné, une veuve charmante, je dirais, il y a des veuves plus dures. Hein, souvenons-nous des liaisons dangereuses et de la terrible baronne de Merteuil dans ses relations avec Valmont, le séducteur, mais quelque part, même si elle exerce ses droits de femme indépendante d'une façon extrêmement perverse. Mais enfin, elle dit quelque part, oui, je suis veuve et je n'ai jamais l'intention, vous me parlez comme me parlerait un mari et je ne l'accepte pas, je ne veux pas redevenir soumise à un homme. Donc, vous voyez, la catégorie des veuves, parce que notamment, alors en plus dans le domaine de l'art, les veuves riches ont souvent été des commanditaires d'œuvres d'art, la catégorie des veuves, qui nous paraît quelque chose d'un peu poussiéreux, est une catégorie qui est intéressante. Hein, parce que c'est un des rares moments où on voit une femme qui peut effectivement réapparaître. Mais ceci dit, il y avait de fortes pressions, pas tellement juridique, mais social en tout cas, pour qu'une veuve re-rentre dans le cycle du mariage. Une veuve, excusez-moi de ces termes, mais qui était encore réutilisable sur le marché matrimonial, c'est-à-dire qui était pas trop vieille, qui avait pas trop de charges, ben oui, normalement, il fallait qu'elle se remarie. Les comédies de Molière mettent en scène plusieurs de ces veuves. C'est une catégorie anormale. Anormale, voilà.
Bien sûr. Mais... puisque nous abordons donc le fond de l'ouvrage maintenant, j'aimerais avoir une réflexion sur le titre que vous avez choisi et les liens qu'il y a donc entre le titre et le sous-titre. À la découverte des femmes artistes, sachant que bon, ici les femmes artistes, ce sont les femmes musiciennes et les femmes peintres. Il y avait d'ailleurs l'autre jour un reportage, il y a quelques mois, remarquable sur Arte, sur Elisabeth Vigée-Lebrun. Ah, oui. Extraordinaire.
Oui, oui. L'expo
au Grand Palais, voilà. Extraordinaire sur le périple de cette femme dans toute l'Europe. Le périple de cette femme aussi dans les époques politiques, donc de la monarchie d'Ancien Régime, de la Révolution et puis de l'Empire. Exceptionnel. Vraiment une histoire de vie, grande histoire de vie. À la découverte des femmes artistes, une histoire de genre. Et quand on lit votre ouvrage, on ne sait pas finalement qui est le sous-titre pour vous. Est-ce que le sous-titre, c'est pas finalement la découverte des femmes artistes? En tout cas, ça peut marcher dans les deux sens. On peut se dire que cet ouvrage, il se comprend à la fois comme, et c'est ça une thèse hein, universitaire, comme ayant comme une première apparence cette histoire des femmes dans le milieu de la composition artistique, musicale et composition artistique de la peinture. Mais finalement, après cette première apparence, une interrogation sur les comportements que nous avons les hommes vis-à-vis des femmes, que nous avons vis-à-vis de leur capacité créatrice, ou au contraire de leur incapacité créatrice. Nous avons une vision négative, et donc c'est pas la peine de la faciliter. Et votre titre et sous-titre, vos titres et sous-titres, finalement marchent pour moi dans les deux sens. Mais je ne sais pas. Pour vous, Norbert, ce qui est le plus important dans cet ouvrage, est-ce que c'est la découverte de ces histoires de vie que vous retracez en introduction, par exemple, mais après, par exemple, sur la danseuse en Inde, etc. Si c'est ça le point focal, Et puis après, bon, on en arrive aux gens, ou si c'est l'inverse. Et je n'arrive pas à trancher. Je ne sais pas ce qui, pour vous, est le plus significatif. Dans votre ouvrage, je n'ai pas non plus retrouvé ce qui me semblait spontanément relever de l'évidence, des propos sur l'ethnomusicologie, la contribution des femmes voilà, à la découverte de la musique, aux instruments qu'on a pu retrouver dans les grottes préhistoriques. Donc la musique existait il y a 40 000 ans, enfin, sans doute, puisqu'on en a des traces tout à fait visibles. Et donc, qui joue de la musique? Qui fabrique l'instrument avec la flûte dans l'os, etc. Et pas, à moins que, évidemment, je n'ai pas vu ces éléments-là, pas non plus sur les peintures pariétales, l'art pariétal, qui d'ailleurs nous pose des questions extraordinaires, puisqu'il y a très très peu de représentations humaines. Oui. On représente surtout l'animal. Oui. Voilà, la grotte Chauvet qui est tout près de nous a très 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 peu de représentations humaines. Et il y aurait un sexe de femme qui est représenté un moment. On devine que c'est un sexe de femme, très intéressant. Donc peint par un homme, peint par une femme. Il n'y a pas, si j'ai bien compris, de recherche sur cet aspect-là, à moins que je me trompe. Alors. Mais spontanément, on se dirait, mais bien sûr, Norbert va nous parler de l'ethnomusicologie.
Non, alors. Bon, il y a un problème de volume déjà. C'est vrai que...
Pardon.
J'ai chez moi encore d'autres matériaux qui ne sont pas là-dedans, mais ça fait déjà 430 pages.
Oui, c'est pas mal.
C'est vrai que... Mais non, vous avez tout à fait raison. Hein, l'ethnomusicologie, ça aurait été important d'en parler. J'en parle quelque part dans le chapitre sur les instruments ou les développements sur les instruments de musique. Je cite quelques exemples d'effectivement de sexuation des instruments de musique dans des populations africaines. Mais je reconnais que ça doit prendre une demi-tâche, c'est très rapide. Mais oui, effectivement, bon, c'est vrai que ça aurait été un chapitre tout à fait intéressant et que, en quelque sorte, ça
surtout que je me souviens vous avoir lu Norbert et vous disiez que les chants inuits ont une fonction sociale de pacification.
Oui, c'est vrai.
Je me souviens très bien.
Oui,
et qui donc chantait ces chants, plutôt les hommes? Qui les avait composés? Quelles en étaient les paroles? Quel était le sens des paroles? Je me souviens très bien de vous avoir lu là-dessus.
Oui, non, mais c'est vrai.
J'étais étudiant.
C'est vrai. Mais bon. Sinon, juste un petit détour par Madame Vigée-Lebrun, qui est effectivement une femme importante et très intéressante. Alors, dans l'histoire pure de la peinture, ce qu'on ne sait pas, mais moi je l'ai découvert en m'intéressant à elle, elle a vécu très longtemps. Elle a vécu 80 ans.
Ah oui, tout à fait. Et elle a vécu tous les régimes.
Voilà, elle a vécu tous les régimes. Mmh. Et sur le plan purement esthétique, très malheureuse, oui.
Et sa fille aussi, elle a pas su éduquer sa fille.
Une catastrophe qui a fini quasiment dans la prostitution et l'alcoolisme, sa fille.
Et qui est morte bien plus jeune, enfin très jeune.
Très jeune, oui. Et Madame Vigée-Lebrun, elle a été, ça on ne le sait pas, c'est peut-être une ancêtre ou une pré-impressionniste. Quand on examine ses derniers tableaux, elle peignait dans la nature et elle peignait dans un flou qui rappelle un peu, enfin qui annonce plutôt celui des impressionnistes. Bon, mais enfin, ça c'est une chose. Mais elle a une réflexion très intéressante parce que Madame Vigée-Lebrun a été l'amie de Marie-Antoinette.
Tout à fait.
Ce qui, avant la Révolution, n'était pas une grande recommandation. Enfin, au moment de la Révolution, n'a plus été une très grande recommandation.
Marie-Antoinette aimait beaucoup.
Elle aimait beaucoup. Mmh. Et Madame Vigée-Lebrun a fait des portraits
c'est
d'elle.
C'est ça, absolument.
Et elle a eu l'intelligence, lors des premiers événements de la Révolution, de voir comment le vent allait tourner. Et au bout de quelques mois, elle est partie.
Tout à fait.
Elle est partie, effectivement. Elle a dû rester 10 ou 15 ans à l'étranger, dont à Saint-Pétersbourg aussi.
Mmh. À Vienne.
À Vienne. Et puis bon, quand tout ça s'est calmé, elle est rentrée en France. Elle est donc rentrée en France au début du 19e siècle. Et le 19e siècle, c'est le passage à une époque de séparation très stricte hein, entre les hommes et les femmes. Et à un moment donné, elle dit quelque part, je ne me souviens plus où, mais elle dit « Mais je suis très étonnée, je vois que lorsque je sors dans la rue, les hommes et les femmes sont d'un côté, chacun séparément, ils se fréquentent plus. Et elle était habituée, surtout dans la société aristocratique de la fin du XVIIIe siècle, à une convivialité entre les sexes. Et là, elle considère, elle voit que l'homme et les femmes, il y a une distance qui a été créée. Et ça, effectivement, elle constate ce phénomène qui va s'accentuer, parce que, comme je l'écris souvent, malheur aux femmes qui sont nées avec le code civil, parce que là, ça a été une époque très dure. Sinon, pour le reste, vous me dites finalement qu'est-ce qui est le déterminant dans le titre et le sous-titre. Je dirais que c'est très difficile pour moi à démêler, parce que si j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, c'est parce qu'évidemment, c'était ma situation d'homme, comme j'ai essayé de vous la résumer brièvement, me portait à une certaine curiosité envers les femmes. Sinon, ça ne m'aurait pas intéressé de consacrer quand même un certain nombre d'efforts à cette question-là. Donc, le point de départ est certainement le présent et la question du genre. Qu'est-ce qui fait que moi, je suis différent ou pas, ou dans quelle mesure, d'une femme ? Ensuite, j'ai plongé effectivement dans l'histoire. Et quand on examine l'histoire des femmes artistes, on constate qu'elles ont été peu nombreuses, que celles qui avaient des dons, ça a été difficile pour elles de percer. Et on est forcé de revenir à la question du genre. Parce que pourquoi est-ce que ça a été difficile pour elles ? Parce que la société avait des idées sur ce qu'elles pouvaient faire et ne pas faire. Et par exemple, dans le domaine de la musique, le domaine de la musique est celui où, même à l'heure actuelle, quand même, l'égalité entre les hommes et les femmes est extrêmement relative. Mais dans le domaine de la musique, pendant très longtemps, on a pensé qu'une femme, pour interpréter de la musique, ça allait très bien. On voit très souvent des tableaux de femmes au clavecin, et encore, pas tous les instruments. Enfin, le clavecin, oui. Mais composer, non. Alors pourquoi ? Parce que la femme n'est pas capable de créer autre chose que des enfants. La femme a une fonction reproductrice. Mais la composition, c'est une discipline intellectuelle, c'est une véritable science, l'harmonie, le contrepoint. Ça, c'est pas accessible aux femmes. De la même manière qu'on pensait, jusqu'à la guerre de 14, que les femmes n'étaient pas faites pour l'apprentissage du latin, ce qui leur barrait l'entrée dans les facs de droit et de médecine, d'ailleurs. Non, elles n'étaient pas assez douées intellectuellement. Alors, évidemment, quand vous tombez sur des témoignages de ce genre, pour un homme du XXe ou du XXIe siècle, ça pose quand même problème. Et vous vous dites, mais pourquoi ? Et forcément, ça vous ramène à cette question de la construction sociale de l'identité sexuelle. Donc, pour répondre à Laurent, c'est un mouvement de va-et-vient entre l'intérêt purement historique et puis l'interrogation toujours actuelle et probablement qui va durer encore longtemps, sur ce que sont les hommes et les femmes, quelles sont leurs facultés respectives, etc.